Radio Kapi.
Jean-Désiré Kanyama à la présentation de votre journal.
Au sommaire de ce journal, au Nord Kivu, la société civile de Masisi dénonce avec fermeté ce qu'elle qualifie de pillage, exploitation et commercialisation illicite des minerais du site de Rubaya. Selon cette structure citoyenne, des dizaines de tonnes de minerais en provenance de ce site auraient déjà traversé frauduleusement par les postes frontières de Bounagana. La société civile du secteur des Rouenzori s'inquiète de la résurgence du phénomène appelé Sangabalende, consistant au vol des produits champêtres. Cette structure citoyenne demande que les forces armées récemment déployées dans ce secteur puissent aider les agriculteurs à traquer ces voleurs. L'invité de ce journal est le directeur de Canal Congo Télévision, CCTV Kisangani, dans la province de la Tchopo. Primo Nzelakaya parle de la commémoration de 25 ans de la création de la Radio Liberté qui fait partie de cette entreprise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, la coordination territoriale de la société civile de Masisi dénonce avec fermeté ce qu'elle qualifie de pillage, exploitation et commercialisation illicite des minerais du site de Rubaya en territoire de Masisi. Dans un communiqué publié jeudi dernier, dont une copie est parvenue à Radio Kapi, les acteurs de cette structure affirment que plusieurs dizaines de tonnes de minerais, notamment le coltan en provenance de ce site, auraient déjà traversé frauduleusement par les postes frontières de Bounagana. Suivez l'un des membres de la coordination des sociétés civiles, Telesphore Mitondeke, a été joint par Radio Kapi.
La coordination territoriale de la société civile Force Vive de Masisi alerte l'opinion tant nationale qu'internationale au sujet du trafic frauduleux de minerais ici du périmètre d'exploitation 4731 dans la région de Rubaya par les Rwanda et compagnie via les labels M23 en complicité avec certaines brebis galaises ou traîtres au niveau local. En effet, plusieurs tonnes de minerais stratégiques, notamment le coltan, sont entrées d'être évacués nuitamment dans la région de Rubaya vers la cité de Mushaki par voie des motos qui jouent le rôle de transport. Après la réception de ce minerai à Mushaki, le M23 utilise ce véhicule de renfort au retour comme moyen de transport de ce minerai en passant par Kausa, Kiloliwe, Kichanga pour chiter dans plusieurs destinations en territoire de Rutshuru, dont principalement la cité de Bounagana où des comptoirs clandestins seraient installés avant les transits vers le Rwanda. Ce réseau mafieux qui opère en violation du code minier de la République démocratique du Congo constitue un véritable enjeu nécessitant des décisions contraignantes ou rigides afin d'arrêter l'hémorragie.
Rappelons que le site minier de Rubaya avait été fermé par le gouvernement congolais après la condamnation l'année dernière de l'ancien député national Edouard Mwangachutu. Pendant ce temps, les membres de la communauté Tutsi vivant au Congo disent n'avoir donné aucune quelconque dérogation à qui que ce soit pour assurer leur protection en RDC. Ils se sont ainsi exprimés hier vendredi à Goma devant la presse après la rencontre avec le gouverneur du Nord Kivu. Le porte-parole de cette communauté a clairement indiqué que c'est le gouvernement congolais et uniquement le gouvernement congolais qui a l'obligation régalienne de les protéger, à l'instar d'autres citoyens congolais et étrangers vivant en République démocratique du Congo. Les propos d'Emmanuel Kamanzi ont été recueillis par la cellule de communication de la province du Nord Kivu.
On a évoqué le problème de l'agression, donc du Rwanda qui attaque le Congo. Nous avons été clairs, c'est un problème politique au niveau du haut sommet, mais les communautés ne doivent pas se taire. Nous avons la grande partie de notre communauté se trouve au Rwanda. C'est ce qui fait au fait qu'il y ait des problèmes. Quand il y a des problèmes entre le Rwanda et le Congo, nous sommes toujours au centre. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 60. Mais aujourd'hui, nous disons non. Nous avons plus besoin de la protection de notre gouvernement. Le gouvernement central comme le gouvernement provincial doit protéger les Tutsis au même titre que les autres. Donc c'est un peu de ça qu'on a parlé brièvement.
Alors quel message expressement vous passez au président rwandais qui passe pour le protecteur de la communauté Tutsi congolaise?
Il est protecteur des Tutsi rwandais. Il a parlé des problèmes des Congolais qui se trouvent au Congo, qui ont des problèmes. Et c'est vrai, nous avons des problèmes. Mais nous ne lui avons pas demandé d'être notre interprète. C'est sa façon de voir les choses. Nous ne lui avons pas demandé. Pour notre président de la République démocratique du Congo, nous avons besoin de protection. Nous n'avons pas besoin de protection de notre pays.
Notez que durant le mini-sommet d'Addis Abeba le 16 février dernier sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC en marge du sommet de l'Union africaine, Kigali a affirmé soutenir les M23 pour protéger les Tutsis congolais, alors que la RDC l'accuse de vouloir voler et contrôler les vastes ressources minérales de la région. Restons au Nord Kivu, où plusieurs sites spontanés de déplacés fuyant les territoires de Masisi s'observent sur l'axe Mugunga-Lac Vert-Nzulo. Toutes les personnes y vivent sans assistance et traversent des conditions inhumaines et se retrouvent exposées aux intempéries. Alexis Baunga, notable de Masisi, revient sur leurs conditions et appelle le gouvernement central à appuyer les autorités provinciales afin d'assister ces populations éparpillées dans des sites. Ces propos ont été recueillis par Sifa Maguru.
À cause des affrontements qui s'observent ces derniers temps dans le territoire de Masisi, opposant les rebelles du M23 au gouvernement congolais, plusieurs de nos compatriotes ont été contraints de quitter leur maison. C'est le cas de nos compatriotes de Mweso, de nos compatriotes de Sake, Kirochi, Chaché, Bweremana, et se réfugier vers des milliers MP sécurisés. Ce qui fait que de nouveaux cas viennent de réapparaître ou de voir le jour, c'est notamment le cas de Bohimba, le cas de Nzulu et même le cas de Bulengo et de Lushagala venaient d'être renforcés par l'arrivée massive de ces déplacés qui n'avaient pas où aller. Malheureusement, nous assistons à une situation pas normale, c'est que l'assistance n'est pas suffisante à ces déplacés, c'est vrai, une assistance des humanitaires, mais nous attendons voir le gouvernement congolais apporter son assistance. Voilà pourquoi je demande au gouvernement central de Kinshasa de pouvoir apporter des solutions, de pouvoir mettre la main à la poche pour mettre des moyens à la disposition du gouverneur des provinces, d'assister, se déplacer.
Et puis, recrudescence de l'insécurité à Moba, en province du Tanganyika. D'après la société civile, ce territoire, depuis janvier dernier, des hommes armés et en tenue militaire attaquent régulièrement des bateaux de pêche sous le lac Tanganyika. En outre, des maisons d'habitation sont la cible de ces malfrats. Le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika, Dieudonné Kasaka, a rassuré ce samedi la population de Moba que des mesures sont prises pour rétablir la sécurité. Paul Mounanga pour les détails.
Dans une correspondance adressée à l'administrateur du territoire de Moba il y a quelques jours, la coordination de la société civile de ce territoire dénonce la recrudescence de l'insécurité. Cette structure citoyenne fait savoir que depuis le mois de janvier, des hommes détenant des armes à feu et des armes blanches s'attaquent à des maisons d'habitation. C'est notamment dans le quartier Moba Port, Kirungu ou au village Mushende. La société civile précise que ces malfrats volent les biens de la population, tabassent et tuent certaines personnes. Ils s'attaquent aussi aux bateaux de pêche en emportant des moteurs et batteries et d'autres biens de valeur qu'ils trouvent sur ces bateaux. Face à cette situation, le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika indique que le gouvernement provincial a déjà pris des mesures pour sécuriser la population. Il annonce même l'arrestation d'une dizaine de malfrats à Moba et qui ont été acheminés à Kalemi pour être jugés. Dieudonné Kasaka.
Nous avons constaté qu'il y a des bandits et des voleurs mais armés qui s'observent, dont certains moteurs de pêcheurs sont volés dans les lacs, moyennant les armes à feu. Le gouvernement aussi doit faire de tout possible afin que la paix soit garantie aux pêcheurs aussi qui font vivre une grande partie de la population. Il y a une semaine, un bateau venait de quitter Moba qui nous a mené au moins une quinzaine de voleurs. On attend leur condamnation.
Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
En Ituri, l'auditorat supérieur militaire exige que les corps de 15 civils tués à la fin de la semaine dernière par des miliciens Kodeko à Talisingo, à une trentaine de kilomètres au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou, subissent l'autopsie. Dans une communication faite hier vendredi à Bounia, l'auditeur supérieur a indiqué que cela permettra de déterminer les causes directes et indirectes de la mort de ces personnes. Cette décision explique même le report à une date ultérieure des obsèques des civils tués. Des détails avec Marcel Kizabiamungu.
L'auditeur supérieur dit avoir ouvert une information judiciaire sur la mort tragique de ces 15 civils pour savoir les mobiles de cette tuerie et qui en sont les auteurs. Le colonel Joseph Makelele ajoute avoir sollicité l'assistance des médecins légistes de l'État appuyés par ceux de la MONUSCO pour effectuer l'autopsie des corps de toutes les victimes afin de déterminer si elles ont été tuées par balle, par étranglement avec un objet tranchant ou s'ils ont été enterrés vivants. C'est à la suite de ces rapports que les familles des victimes pourraient être autorisées à inhumer leurs proches. Cette mesure a conduit au report des obsèques et des deux journées de deuil collectif prévues ces vendredis et samedi, annoncé dans un communiqué de la communauté intime. Pour rappel, il y a une semaine, un groupe de personnes qui revenaient d'un lieu de deuil vers Katuto a été kidnappé puis tué par deux miliciens incontrôlés de la Codeco. Bougnard, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Et dans le territoire de Beni, la société civile du secteur des Rwenzori s'inquiète de la résurgence du phénomène appelé Sangabalende dans la région pendant cette période des récoltes. Il s'agit d'un groupe d'hommes armés qui se livrent au vol des produits champêtres. Le rapporteur de la société civile dans ce secteur demande que les nouvelles unités de forces armées récemment déployées dans ce secteur puissent aider les agriculteurs à traquer ces voleurs. Bernard Mouquet l'a dit au téléphone de Marc Marofimbo.
Vous savez, les agriculteurs en général du secteur Rwenzori, ils sont des producteurs pour seulement l'alimentation. Ils produisent comme à la normale. Malheureusement, les produits champêtres sont presque envahis actuellement par le phénomène Sangabalende, donc des jeunes qui se forment en groupe de bandits qui envahissent les produits vivriers dans les champs des agriculteurs. Nous avons évidemment un système d'alerte à partir évidemment des chefs de base. Et une bande a été arrêtée. Il a été transféré au TD à Beni et avec quelques jeunes qui ont été appréhendés. Malheureusement, nous avons un nouveau régiment maintenant qui n'a pas encore fait longtemps. Nous croyons que nous allons encore aller vers eux pour essayer de leur transmettre nos inquiétudes ou même quelques cas de menaces sur le plan sécuritaire des produits des agriculteurs. Nous pensons que ça sera aussi leur champ de bataille pour que la paix revienne totalement.
Signalons que le secteur des Rwenzori est connu pour sa production de cacao avec une usine de chocolaterie installée dans la région, mais aussi la banane plantain et l'huile de palme. Ici à Kinshasa, l'Observatoire des médias pour l'émergence et le changement OMEC vient de décerner pour son édition 2023-2024 un diplôme de mérite au coordinateur du projet de l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et agrobusiness, BJB Richard. C'est pour honorer ses nombreuses actions à la tête de cette structure posée au bénéfice des Congolais. Pour le bénéficiaire, ce geste constitue un motif d'encouragement pour lui et ses collaborateurs et surtout pour tout investisseur congolais. Occasion également pour l'OMEC de demander aux jeunes entrepreneurs d'imiter ce bel exemple en mettant en devant l'excellence dans leur travail par des valeurs positives. Je vous propose de suivre tour à tour Richard Kialungila ainsi que le bénéficiaire BJB Richard.
L'ASBEL, Observatoire des médias pour le changement et l'émergence du Congo OMEC, décerne ses présents diplômes à M. Béjibo Richard, qui égale à d'innombrables actions notables posées dans la culture et pour la matérialisation de beaucoup de projets qui ont aidé la nation congolaise à se développer. En fin de quoi, ce dernier fait partie désormais du cercle restreint des dix fils dévoués pour la cause de la patrie.
C'est un honneur aujourd'hui, c'est ma personne qui est honorée à travers ce diplôme. Je me réjouis pour ça et c'est un motif d'encouragement pour que les jeunes de partout comprennent qu'ils représentent beaucoup et qu'ils peuvent faire mieux dans leur parcours professionnel pour qu'ils puissent servir de modèle pour les autres. C'est un motif en tout cas d'engagement personnel aussi.
Pour rappel, l'OMEC œuvre à Kinshasa depuis l'année 2016 avec pour mission d'assister les personnes de troisième âge les plus démunies de la société. Il récompense aussi les personnalités qui ont réalisé des prouesses et des bonnes œuvres dans plusieurs secteurs de la vie sociale. Discordance des vues entre la société civile Force Vive du Maniema et l'Assemblée provinciale du Maniema. C'est au tour de la validation des deux chefs coutumiers alors que leur dossier en contestation est encore pendant à la cour d'appel du Maniema. L'Assemblée provinciale dit pourtant que même les dossiers des députés élus validés sont pendants à la cour d'appel du Maniema. On écoute les questeurs faisant office des rapporteurs du bureau provisoire. Les députés Théophile Bouléli d'Octa est au micro de Florence Kizalunga.
L'Assemblée provinciale du Maniema a suivi avec indignation, par la voix des ondes, la sortie médiatique de M. Kamundala, président de la société civile Force Vive du Maniema, qui, suivant ses propos, s'attaque au fonctionnement de l'Assemblée provinciale en rapport avec la validation des pouvoirs des députés provinciaux élus et la cooptation des chefs coutumiers. À ce sujet, l'Assemblée provinciale du Maniema tient à fixer l'opinion sur ce qui suit. La sortie médiatique de M. Kamundala est fondée sur la méconnaissance et où les mépris de la Constitution, de la loi électorale, du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Maniema, ainsi que le fonctionnement des institutions dans notre pays. Pour enlever son ignorance, la procédure de vérification et validation des pouvoirs des députés élus et celle de la cooptation des députés chefs coutumiers se font indépendamment de la procédure de la contestation des résultats devant les juridictions compétentes, confère article 15 de la loi sur la libre administration des provinces, 152 de la loi électorale et 10 à 18 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Maniema.
Actualité internationale.
En Guinée, les restrictions d'accès à Internet qui étaient imposées depuis 3 mois en raison d'un problème de sécurité, selon les autorités de ce pays, ont été levées dans la nuit de jeudi dernier à hier vendredi. Réseaux sociaux rétablis en Guinée comme ils avaient été supprimés en catimini, selon l'ONG Tournons la page. Au Sénégal, 16 des 19 candidats à la présidentielle ont refusé un dialogue proposé par Macky Sall un peu plus d'une semaine après l'annulation du report de ses scrutins. Dans un communiqué distant, le collectif citoyen AR Sounou Élections dénonce une tentative de diversion à travers l'invitation à un dialogue qu'il juge inapproprié.
L'invité.
L'invité de ce journal est le directeur de Canal Congo Télévision CCTV Kisangani dans la province de la Tchopo. Primo Nzela Kaya parle de la commémoration de 25 ans de la création de la radio Liberté qui fait partie de cette entreprise de médias. Primo Nzela Kaya s'entretient à Kisangani avec Jacques Moukonkolé.
Vous avez lancé aujourd'hui des activités marquant le 25e anniversaire de la création de la radio Liberté. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement les circonstances dans lesquelles cette radio a été créée?
Oui, la radio Liberté a été créée pour appuyer le mouvement de lutte politique qu'on appelle le mouvement de libération du Congo. C'était une radio, en fait, les politiciens avaient leur appréhension de la chose. Ils voulaient une lutte politique et militaire. Mais il y a eu un papa, l'ancien directeur général de l'ASAP, actuellement l'ACP, papa Ramazan Ibaya, qui avait donné l'idée au promoteur Jean-Pierre Bemba de mettre en place une radio pour appuyer cette lutte politique et militaire. C'est comme ça que la Radio Liberté a été créée. Aujourd'hui, on a un réseau Radio Liberté à travers le pays, mais les 25 ans sont plutôt marquants, surtout marquants, parce que la Radio Liberté a sa genèse, son histoire à Kisangani. C'est une radio qui a été créée à Kisangani en 1999.
Quelle est la ligne éditoriale de cette radio aujourd'hui ?
La ligne éditoriale de la Radio Liberté reste la même. Même pendant que le MLC était en rébellion, la Radio Liberté avait comme ligne éditoriale d'être ouverte à toutes les opinions. Et nous avons gardé cette ligne jusqu'à présent. Je rappelle qu'en pleine rébellion, les journalistes de la Radio Liberté étaient capables de critiquer les actions même du mouvement de libération du Congo, dont le promoteur était Jean-Pierre Bemba. Et nous avons gardé cette ligne éditoriale jusqu'à présent. Quand la Radio Liberté donne de l'information, c'est difficile de calquer la Radio Liberté à un mouvement politique quelconque. Parce que nous avons gardé cette liberté-là, nous avons gardé cette tolérance, nous avons gardé cette ouverture à n'importe quel camp politique et à n'importe quel camp social.
Alors aujourd'hui, quel bilan pouvez-vous établir 25 ans après ?
25 ans après, on a connu beaucoup de problèmes. La radio a été interrompue à un certain moment. Et puis à un certain moment, il y a des personnels qui ont aussi quitté. Il faut se dire que le travail du journaliste ici dans notre pays n'est pas un travail facile. Mais nous nous sommes lancés comme défi de faire du journaliste de la Radio Liberté qui Kisangani spécialement et de la Radio Liberté de la province en général. Un journaliste est respecté par la population qui sera entretenu et dont la rémunération va suivre avec le temps.
Avez-vous une particularité chez vous par rapport à d'autres médias existants ?
Nous ne sommes pas spéciaux par rapport à d'autres médias. Mais la particularité avec de la Radio Liberté aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus un réseau national. Ce n'est plus une seule station. Nous sommes à travers le pays, plus de 47 stations de radio et 7 chaînes de télévision. Nous sommes en train d'en implanter d'autres. La particularité, c'est surtout cette diversité, cet élargissement de réseau que nous sommes en train d'implanter à travers le pays. Et je crois que ça, pour l'essor de l'opinion, de la presse, pour la promotion de la presse dans notre pays en plus démocratique du Congo, c'est vraiment un grand avantage.
Et enfin, quels sont les défis, les perspectives d'avenir ?
Les défis et les perspectives d'avenir sont simples. Nous sommes aujourd'hui dans notre pays en train de suivre plusieurs programmes de pays étrangers. Nous nous sommes lancés le défi demain de relever les défis de la communication. Donc nous voulons relever les défis de la communication pour que les réseaux Radio Liberté et CCTV par ricochet deviennent un réseau de télévision comme France 24, comme TV5 Monde qui est suivi à travers le monde entier. Et ces défis-là, je vous l'assure, avec un peu de volonté et l'aide de Dieu, nous allons le relever.
Quels sont ces défis ?
Les défis de la communication, ça veut dire donner l'information en se servant de faits, en étant neutre. Et puis, donner aussi les moyens à la population de s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, la communication, ce n'est pas seulement dans une seule direction. La communication, c'est aussi écouter ce que la population dit pour pouvoir s'améliorer. Et surtout, s'ouvrir au monde entier, ça veut dire que nous soyons suivis à travers le monde entier, comme d'autres chaînes étrangères sont également suivies dans notre pays. C'est ça le défi de la communication.
Monsieur le directeur, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Et c'était notre invité Primonze de Lakaya, directeur de canal Congo Télévision, CCTV Kisangani, dans la province de la Tchopo, qui s'entretenait avec Jacques Moukonkolé. Fin de ce journal qui a été supervisé par Noëlla Luzitu Kabambi et mise en onde par Jean-Noël Mokondo. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.